Simone,
Nathalie Mann
et Solès
explorent une thématique
au travers de la poésie et de la musique
tous les troisièmes lundis du mois de 20h à 21h
sur la clé des ondes 90.1. Les langues sont des biens communs, des espaces publics, des lieux non délimités et non délimitables qu'on peut traverser, fréquenter sans être redevable de quoi que ce soit. La langue n'est pas une propriété privée. La langue est une chose qui relève du communisme absolu, c'est-à-dire qui est le plus universellement partagé. Qu'il est réjouissant et consolant de savoir qu'on n'est pas fatalement et pour toujours enfermé dans une seule langue, qu'on n'est pas inévitablement prisonnier de sa propre culture. J'aime les errants, les personnages en errance qui s'éloignent du naturel, du natal, du maternel. J'aime ceux qui regardent le proche par le lointain. J'aime ceux qui osent défaire les liens préétablis pour en faire d'autres à leur convenance. Mon errance est linguistique. Bonsoir à toutes et à tous, chers auditeurs. Voilà 2 mois que nous étions quittés la nuit avec C.R. Avery et plein d'autres. Notre interviewé Brésil et quelques poèmes de François Chung. Nous allons d'ailleurs le retrouver dans cette émission à travers son errance linguistique, juste après Akira Mizobayashi et son petit éloge de l'errance dont je vous ai déjà lu quelques extraits juste avant. Ici même est une émission mensuelle de poésie et de musique animé par le musicien Sol S.
Bonsoir Nathalie.
Bonsoir Sol. Et moi-même sur la clé des ondes 90.1.
Doko de ikitemo nagare mono Dose sasurai hitori mino どこやら風に聞け可愛いあの子の胸に聞けあ東京流れ物流れ果てない旅に出ていつか忘れた東京の
Mon errance linguistique a commencé voici plus de 40 ans, entre deux langues. Entre d'une part, celle de mes parents, celle qui m'est venue naturellement, d'autre part, celle que je suis allée habiter, celle que j'ai choisi de m'approprier, celle dont j'ai décidé de faire un lien d'ancrage me permettant de me distancier de ce que ma langue d'origine m'oblige à être. C'est cela, en substance, mon errance que je ne cesserai de poursuivre seule. Accent local. Je parle le chinois au miroir. Un parc a son propre hiver. Je mets de la musique. L'hiver n'a pas de mouches. Tranquillement, je fais du café. Les mouches ne comprennent pas ce qu'est un pays natal. J'ajoute un peu de sucre à mon café. Un pays natal est une sorte d'accent local. J'entends mon angoisse au bout du combiné. Peitao dans Vieille Neige.
Go away from my window. Go away from my door. Go away, away, away from my bedside. I'm bother me no more. I'm bother me no more. I'll give you back your letters. I'll give you back your ring. But I'll never forget my own true love as long as songbirds sing, as long as songbirds sing. I'll go tell all my brothers, tell all my sisters too, that the reason why my heart is broke is on account of you, is on account of you. Go on your way, be happy, go on your way and rest. Remember, dear, that you're the one I really did love best. I really did love best. Go away from my window, go away from my door, go away, away, away from my bedside and
mon entrée dans la langue française m'a ouvert la voie qui m'a permis de pénétrer, sans réserve, dans une culture autre. Cela nullement au détriment de ma culture native. La meilleure part, appelant la meilleure part, les deux meilleures parts de la double culture devenue mienne, lentement interpénétrées, finissent par m'habiter de façon plénière, constituant par là une richesse extraordinaire, sans que jamais ne m'ait effleuré la sensation d'un quelconque renoncement ou sacrifice. En revanche, elles m'ont inculqué assez de sens critique pour ôter de ma conscience tout fatras de préjugés, d'avatars, de déchets nocifs que véhicule toute culture. Ainsi, allégé et rehaussé par elle, je m'efforce d'élever la symbiose opérée en moi vers une forme de transfiguration, et c'est là un horizon idéal que je me suis fixé, sans être jamais sûr d'y parvenir. Issue à l'origine d'une langue écrite idéographique, où chaque caractère forme une unité vivante, je suis sensible à la substance même des mots, à leur plasticité comme à leur sonorité. J'ai tendance à vivre beaucoup de mots français comme des idéogrammes. Ils évoqueraient l'idée d'un être ou d'une chose, non par l'image que composent les traits graphiques, mais par les sons que leur prononciation fait entendre. Phonétiquement et même graphiquement, le mot « arbre » évoque quelque chose qui d'abord s'élève, « ar », puis se maintient en équilibre sur son sommet, « b », avec un double rond superposé, avant de répandre autour son ombre bienfaisante, « br ». Le rocher est cette substance minérale qui contient la mémoire de la flamme originelle et qui, dans le même temps, se prête à notre besoin vital de toucher, de modeler, de sculpter ou de bâtir. Phonétiquement, le mot suggère, par la première syllabe, une chose qui est enrobée ou close sur soi, roc, mais qui ne refuse pas de se donner, chair. Ce grain de poussière fait homme. Par quelle magie, a vu, entendu, s'est ému et muet en langage, en échange, en long chant de révolte, de tourment, de louange. François Cheung dans « Défense et illustration de la langue française aujourd'hui ».
Moi, Nathalie, ce soir j'aimerais parler d'un musicien qui a disparu il y a un peu plus d'une semaine.
Oui.
Un musicien de free jazz, un batteur de free jazz qui s'appelle Sonny Murray. Et donc, il est mort ce 7 décembre à Paris, à l'âge de 81 ans. Et donc, Sonny Murray était né en 1936 dans l'Oklahoma. Puis, il a beaucoup bougé dans les années 50. Il s'installe à New York et on le retrouve aux côtés, par exemple, entre autres, de Cecil Taylor, de John Coltrane, Ornette Coleman, Archie Shepp. Puis, en 68, il décide de s'exiler en France. Il ferait partie de ces musiciens qui ont fait le choix de quitter l'Amérique pour une Europe a priori plus ouverte à l'avant-garde.
Mmh.
Et c'est à cette époque, il avait déjà quelques années avant commencé à sortir des albums solo sous son nom. Donc. Et en 72, il repart ensuite de nouveau aux États-Unis, à New York, pour regagner la France en 1989, où finalement il restera donc, jusqu'à sa mort, là, ce 7 décembre 1960, ce 7 décembre 2017. Et donc, on a un peu parlé dans les médias, mais pas suffisamment à mon goût. Et donc, on va écouter An Even Break, qu'il a enregistré à Paris, chez Actuel, en 1970. An Even Break, Never Give a Sucker.
Walking beside the still waters, following a light of prominent splendor. Love bed of laid women in wretched masts, lending their souls only to find a mist in their embrace. Can man dream and know not why? Can the life of music be alive? Eyes with the tears of lonely apprehension for the future of black years. No. No. I am centuries off my knees with my face to the sun. And in such togetherness, my mind and my heart sing. Christine, Christine, pudding cake, baby. As the groove becomes real, super soul. You bold white faces and black philanthropist disguise, who are you fooling? Your mirror, a mass of the wretched men we have become, in the eyes of music for money, and the money in the eyes of art for what? Hey now, steadfast, firm and true conviction. Each eye you see, death if you do not see them. I know you know, brother. Soldier on.
join my friend. Conquest has been conned, but not won. Love's won. Yours or queen, leads us love. For the Lord. Or one bath of shit to love. I must feel the Creator in everything, or else Esau, muddy roads, valleys of despair. Forefather, grandfather, ancestor, mother, daughter, granddaughter, grandmother. No dream. As we live, but to live only to as we can know. Gong gang, gong gang. Uhura, uhura. Assalamu alaikum. Alhamdulillah.
Seul. Hier, j'ai interviewé à quelques mètres de la clé des ondes l'auteur Derek Mann. Tu connais cet homme ?
Ben non.
Pas. Et ben écoute, il vient de publier donc chez Lire des Marges un petit livre d'une dizaine de pages qui s'appelle L'ellipse du bois, que je trouve très bien écrit. Et donc, je te propose d'en lire quelques extraits avant l'interview.
Voilà. Ça marche.
Un garçon émerge du bois, ou au moins ce qui est caché par quelque chose de visible. Il n'en est pas sorti complètement. Mais sortons jamais complètement d'un bois quand on y a habité. À l'orée, il ausculte les contradictions de son courage, cligne des yeux. Il aperçoit quelque chose qui dépasse son monde, une chose sans précision, une sorte d'absence qui se positionne juste au-delà des limites de son vocabulaire. Elle l'éblouit de façon sournoise, lui tire le regard, lui refroidit la cornée. Ce n'est pas aujourd'hui qu'il ira plus loin. Toutefois, il ne peut retourner comme si de rien n'était. Il retrouvera les arbres, mais pas le sentiment d'être parmi eux comme avant. Il sera désormais obligé de jouer sa présence. Ses déplacements dans le sous-bois seront ceux d'un intrus. Le dissimuler sera moins évident. Le bois même commencera à le décevoir, à rétrécir, ses mystères se mettront en rang. C'est peut-être le moment où la poésie l'abandonne. Sillage, imminence. La photo montre seulement ce qu'on voit. On ne sait pas ce qui se passe, ni ce qui s'est passé. Elle est inévitable. Pourquoi cette photographie ? Pour les arbres, pour les rideaux, pour ce qu'elle contient de moi, pour son accent. Je le regarde, je me regarde, nous nous regardons, nous sommes le même garçon, mais j'ai l'impression qu'il lit mieux mes pensées que je n'imagine les siennes. Il n'y croit pas. Comment lui parler ? Mes mots s'en mêlent avec de vieux relents de la vieille langue qui tient mon enfance en otage.
Je suis Derek Mann, je suis d'origine anglaise, Je suis arrivé en France en 1988, et bon, j'écris en français maintenant, qui n'était pas un choix évident au début. Qu'est-ce que je peux dire d'autre de moi? J'ai fait beaucoup de travail, j'ai jamais été convaincu par l'idée de travailler, j'ai toujours eu l'idée d'écrire, et bon, j'écris. Il se trouve que je suis un écrivain français, ce qui m'étonne un peu. Quand je suis arrivé en France, j'avais déjà 30 ans passé. J'avais toujours été nul en langue à l'école. Je détestais le français à l'école. Je ne voyais aucune utilité à apprendre des langues. Et c'est vrai qu'à l'école, on apprend des choses sans voir pourquoi. Donc je suis arrivé en France sans parler un mot de français. Je suis arrivé en France parce que j'ai rencontré une Française. Donc j'ai tombé dans un réseau de Français. J'avais tout de suite des amis français. Je n'étais plus dans un réseau anglophone, expatriate. Donc j'ai appris le français assez rapidement. J'ai cessé d'utiliser l'anglais. Mais comme j'ai appris assez tard, je pensais que je n'étais pas bon en langue. J'ai mis longtemps à me décider d'écrire en français. Je pensais que ce n'était pas possible. On a des clichés, qu'on a l'enfance, on grandit dans une langue, on a tous les souvenirs. Et j'ai mis longtemps à me dire que ce ne sera jamais possible. Et après, j'ai trouvé ça pas normal. Après le moment que ma vie était en France, tous mes amis, toutes mes relations presque en France, je devais essayer de travailler en France. Et ça m'a donné une autre approche à l'écriture, une façon de travailler avec une autre langue.
Est-ce que vous pouvez me expliquer un peu plus cette différente approche à l'écriture que vous avez avec le français par rapport à l'anglais?
Déjà, je suis obligé d'être beaucoup plus attentif à l'écriture. Sans doute, j'avais publié peu de choses en anglais. Je travaillais pas assez l'écriture. C'était facile parce que je pensais pas tellement au langage. Avec le français, j'étais obligé tout le temps de me concentrer sur la structure, tout ce que je voulais dire, comment je voulais le dire. Donc la langue est devenue un outil. C'était quelque chose que comme un objet que je maniais. Je faisais ce que je voulais avec, mais pas de la même façon, pas spontanément, comme j'aurais fait en anglais. J'essaie de récupérer un peu l'anglais maintenant. Au début, quand j'ai commencé à écrire en français, j'avais un peu peur que l'anglais parasite, donc j'ai arrêté de lire ou de faire beaucoup de choses en anglais. Donc j'ai un peu abandonné l'anglais, au point que ma mère me dit que j'ai un accent maintenant et j'ai du mal. Là, je viens de passer une semaine en Angleterre chez mes parents. Et je ne me sens pas chez moi en Angleterre, c'est difficile. En même temps, je suis en train de traduire un texte vers l'anglais et je me rends compte que c'est difficile. Ça fait presque 30 ans que je suis en France, l'anglais a changé. Moi, j'ai très peu utilisé l'anglais et ce n'est plus aussi spontané. Donc je suis en train de retourner maintenant. Maintenant j'ai publié 3-4 livres et je ne peux pas dire que je suis parfait, je ne suis pas complètement à l'aise avec le français, mais je veux récupérer un peu l'anglais, lire un peu plus.
Vous croyez que c'est nécessaire alors ce sacrifice que vous avez fait, cet abandon que vous avez fait, parce que c'est...
Je ne sais pas si c'est nécessaire, si j'avais appris des langues plus jeunes, peut-être, quand on est jeune, on peut prendre 2-3 langues. Si on a des parents de langues différentes, ça vient plus spontanément. Comme j'étais un peu mauvais élève à l'école et j'ai pris le français très, très tard, donc je ne crois pas que c'est nécessaire, mais pour moi c'était nécessaire. J'ai grandi à la campagne en Angleterre, dans un coin où il n'y avait pas cinéma, mais je lisais des journaux, je lisais des critiques de films, je lisais tout sur les cahiers du cinéma, les choses que je ne voyais pas, mais je lisais dans les journaux anglais que ça existait. J'étais très attiré par le cinéma français. Je me souviens quand le BBC a créé son deuxième chaîne et commencé à passer des films en VO très tard. Qu'on ne me captait pas à la maison, donc je marchais 7 km le soir pour aller regarder avec mon grand-père, tard dans la nuit, des films de Godard ou des choses comme ça. Donc j'étais toujours assez intéressé par ce qui semblait être la culture française. Et quand j'ai rencontré ma femme, qui est la raison pourquoi je suis en France, on aurait pu faire le choix qu'elle vienne en Angleterre. Elle n'avait pas envie de s'installer en Angleterre. Et moi, j'étais très content de quitter l'Angleterre. Je me sens pas du tout anglais. Ça ne me manque pas du tout, en fait. Donc, je ne sais pas. Quand je vois des images de Londres, des anciennes images de Londres ou de Paris, je me sens beaucoup plus nostalgique pour une passé que je n'ai pas eue à Paris, que le passé que je peux trouver en Angleterre. Après la langue, il y a une approche, je me sens plus proche peut-être de ce qui est publié ou qui a été publié en France qu'en Angleterre. Mais si je n'ai pas de famille, je crois que je ne retournerai jamais en Angleterre.
Quelle était pour vous la plus grande difficulté, je me demande, de la langue française en fait?
Il y a plein de difficultés.
Oui.
Hein,
c'est vrai, c'est pluriel, c'est sûr.
Comme je l'ai appris assez tard, il y a des choses comme le masculin et le féminin, que c'est le hasard maintenant, encore je fais des erreurs. Bon, la grammaire, la structure est beaucoup plus compliquée. En Angleterre, j'ai jamais appris de grammaire. À l'école, on apprend de lire et écrire, mais j'ai jamais appris d'une façon structurée comme on apprend en France les termes de grammaire, de façon d'écrire. Et quand je suis arrivé en France, comme je ne parlais pas français, les choses qu'on fait quand on arrive à Paris, anglophone, on enseigne l'anglais. Donc je travaille dans une école de langue avec les adultes. Et j'ai appris pas mal de français à cette époque-là, mais j'ai appris beaucoup sur l'anglais parce que j'étais obligé de réfléchir sur quelque chose que je n'avais pas appris d'une façon. J'avais des parents qui n'ont parlé que l'anglais. Il n'y avait pas d'autres langues dans ma famille. Donc c'est intéressant parce que j'écris en français, donc personne dans ma famille lit ce que j'écris. Parce que je ne suis pas traduit, moi je ne me traduis pas. Donc je ne sais pas si c'est une liberté aussi, hein. C'est étrange, mais j'envoie mes livres. Mes parents, ils ont tous mes livres à la maison, mais personne ne lit. Ça me fait bizarre aussi. C'est pas comme une trahison, mais c'est bizarre de faire quelque chose qu'il ne peut pas.
Nine
Entre deux, je ne sais pas si j'erre ou si j'échoue contre les ruelles vagabondes d'un vieux monde. Allá donde llega el ojo, llega la nada. Una teoría de camellos, lento gusano de horizonte, pasa. Donde pones el ojo, pones la nada, amarilla y parda. Horizonte roído de miradas, allá donde llega l'ojo, llega la nada. Aussi loin que les yeux parviennent, ils parviennent au néant. Une théorie de chameau, chenille d'horizon, passe lentement. Là où tes yeux sont posés, tu poses le néant, jaune et gris mêlé. Horizon de mille regards rongés, aussi loin que les yeux parviennent, ils parviennent au néant. Viento loco, tierra seca. Boca sedienta, sediento, mundo ciego, arena en el cielo, polvo, tormenta y tormento, vuela y entierra y aúlla, la arena de duna en duna, tierra que aterra y entierra, en cielo vuelto y revuelto. La terre est sèche, fout le vent, vent assoiffant, bouche assoiffée, monde aveugle, ciel ensablé, poussière, tourmente et tourment. Et le sable de dune en dune va son vol et enterre et hurle. Terre qui atterre et enterre, volant, virevoltant dans l'air. Max Aube dans Journal de Djelfa. Là, Sol, j'aimerais bien te lire quelques passages du prix Goncourt 2014. Pas pleurer.
Avec plaisir.
De Lydie Salver. Ce livre, donc, a deux voix. Hein, c'est celui de Bernanos, qui est témoin direct de la guerre civile espagnole ou de la guerre d'Espagne, puisque est-ce que c'est vraiment une guerre civile ? Ça ne rentrera pas dans le débat. Mais, et la voix de Montse, la mère de la narratrice.
D'accord.
Voilà, ce qui est intéressant, pourquoi je voulais vraiment lire ce passage aujourd'hui, c'est parce qu'on parle d'errance linguistique et dans ce passage se mêlent quelques mots en espagnol qui passent très bien. Et connaissant très bien ce symptôme, étant fille d'une mère espagnole qui, maintenant de plus en plus qu'elle vieillit, hélas, elle, ou je sais pas, heureusement, met quelques mots espagnols à chaque phrase et j'ai l'impression que sa langue maternelle est en train de prendre le dessus.
D'accord.
Qui galope sur sa langue d'adoption, le français. Voilà, donc ça commence comme ça, l'extrait. Queremos vivir. Il y a la foule, il y a foule dans la grande salle de l'Ayuntamiento, plus encore que pour les fêtes de la Semaine Sainte. Presque tous les hommes du village ont quitté les champs avant l'heure, et certains, pour honorer ce premier jour de la Révolution, ont revêtu leurs habits de dimanche. Parmi les paysans présents, quelques-uns sont, comme le père de José, propriétaires de petites parcelles. La plupart louent leurs terres à Don Jaime et Burgos, et les plus pauvres y travaillent comme journaliers. José et Juan fendent résolument la foule à coups de coude et de con permiso et parviennent à se hisser sur l'estrade. José prend la parole. C'est la première fois de sa vie. Il dit les grandes phrases bibliques qu'il a entendues à Lérima et qu'il a lues dans le journal Solidaridad Obrera. Il dit « Soyons frères, partageons le pain, mettons en commun nos forces, créons une commune. » Et tous y mordent. Il est théâtral, romantique à mourir. « Un ángel moreno caído del cielo. » Il dit « Nous ne voulons plus de la putasserie des possédants qui nous font une vie de misère et empochent l'argent de nos sueurs. Nous avons des forces qu'ils ne peuvent pas connaître. Le moment est venu de les mobiliser. Aujourd'hui, nous voulons vivre autrement et c'est possible. C'est devenu possible. Nous voulons vivre de telle sorte que personne ne marche sur personne, que personne ne crache sur personne, que personne ne dise à personne « Tu as l'air bien modeste dans le dessein de l'amoindrir et de mieux l'entuber. » Ma mère, j'en avais la peau de poule. Et nous ne nous calmerons pas avec quelques os et quelques caresses. Se acabó la miseria. La revolución no dejará nada como antes. Nuestra sensibilidad se mudará también. Vamos a dejar de ser niños y de creer a ciegas todo lo que se nos manda. Février 2011, ma mère se repose dans son grand fauteuil vert, près de la fenêtre qui donne sur la cour d'école. Raconter son été de splendeur l'a fatiguée. Sa joie à le dire l'a fatiguée. De tous ses souvenirs, ma mère aura donc conservé le plus beau, vif comme une blessure. Tous les autres, à quelques exceptions près, parmi lesquelles je compte ma naissance, effacés. Tout le pesant fardeau des souvenirs, effacés. 70 années d'un hiver interminable dans un village de Languedoc, effacés et à jamais muettes, pour des raisons que j'ai quelque mal à cerner, médicale peut-être, ou bien, et cette hypothèse reste pour moi des plus troublantes, parce qu'elles n'ont compté pour rien. Ne percer sans sa mémoire que cet été 36 où la vie ou l'amour la prirent à bras le corps, cet été où elle eut l'impression d'exister pleinement et en accord avec le monde, cet été de jeunesse totale, comme eut dit Pasolini, et à l'ombre duquel elle vécut peut-être le restant de ses jours, cet été qu'elle a, je présume, rétrospectivement embelli, dont elle a, je présume, récréé la légende pour mieux combattre ses regrets, à moins que ce ne soit pour mieux me plaire. Cet été radieux que j'ai mis en sûreté dans ces lignes, puisque les livres sont faits aussi pour cela. L'été radieux de ma mère, l'année lugubre de Bernanos, dont le souvenir resta planté dans sa mémoire comme un couteau à ouvrir les yeux, deux scènes d'une même histoire, deux expériences, deux visions qui, depuis quelques mois, sont entrées dans mes nuits et mes jours, où lentement elles infusent. La cour de récréation, que ma mère observait derrière la fenêtre dans un plaisir si pur, vient de se vider de ses enfants. C'est soudain un grand calme. Ma mère se tourne vers moi. Si tu ne servais une anisette, ma chérie, ça nous renforcerait la morale. On dit le ou la ? On dit le moral. Une petite anisette, ma Lydia, par les temps qui galopent, c'est une précaution qui n'est pas, si j'ose dire, surnuméraire.
I went out to the hazelwood. Because a fire was in my head, I cut and peeled a hazel wand and to a thread, and when white
sweet moths were on the wing, and moth-like stars were flickering out. I dipped the berry in a stream, and caught a little silver trout. When I had laid it on the ground and stooped to blow the fire aflame, something rustled in the leaves, and someone called me by my name. It had become a glittering girl with apple blossoms in her hair, who called me by my name and ran and vanished in the brightening air. Wandering through hollow lands and hilly lands, I will find out where she has gone and take her hands and walk through long green dappled grass and pluck till time and times are done. Silver apples of the moon, golden apples of the sun.
Dans 3 jours, ce sera l'hiver, non ? Sol, t'es d'accord ?
On est 18. C'est peut-être déjà un peu l'hiver.
Ouais, c'est déjà un peu l'hiver, ouais. Bon, en tout cas, je vous ai trouvé un poème rêvé pour l'hiver d'Arthur Rimbaud, écrit en wagon le 7 octobre 1870. L'hiver, nous irons dans un petit wagon rose, avec des coussins bleus. Nous serons bien. Un nid de baisers fous repose dans chaque coin moelleux. Tu fermeras l'œil pour ne point voir, par la glace, grimacer les ombres des soirs, ces monstruosités hargneuses, populaces, de démons noirs et de loups noirs. Puis, tu te sentiras la joue égratignée, un petit baiser comme une folle araignée te courra par le cou. Et tu me diras « Cherche !» en inclinant la tête. Et nous prendrons du temps à trouver cette bête qui voyage beaucoup.
À la fin du mois de novembre, Nathalie, il y a eu un mini événement pour moi dans le monde de la musique. C'est qu'il est sorti très très discrètement un nouveau disque.
Ah bon ?
D'un artiste qui s'appelle Marvin Pontiac.
Ok.
Alors, qui est Marvin Pontiac ? Ben, en fait, beaucoup de gens se sont posé la question pendant très longtemps. En fait, en 1999, il y a eu un disque qui est sorti qui s'appelait The Legendary Marvin Pontiac.
D'accord.
Donc, un disque d'un bluesman. Et donc, personne ne savait vraiment qui c'était. Mais apparemment, il était légendaire. Et puis, au fur et à mesure, il y a eu une histoire qui est apparue sur Internet autour de cet homme. Où, en fait, on apprend qu'il est né... d'une mère malienne et d'un père juif aux États-Unis, qu'il a, enfin voilà, toute une histoire que vous pourrez aller lire, je sais pas, mais qui est complètement un peu folle. Et il aurait terminé dans un asile psychiatrique. Et en fait, c'est tout ce qu'on saurait de lui.
D'accord.
Et donc les seules photos qu'on aurait de lui, c'est dans cet asile. Donc il y avait ces photos qui circulaient. Et puis en fait, quelques temps plus tard, on découvre qu'en fait Marvin Pontiac n'a pas vraiment existé, que c'était une invention de John Lurie. Je ne sais pas si tu vois qui
non,
c'est John Lurie. John Lurie, il avait un groupe dans les années 80-90 qui s'appelait The Lounge Lizards. Il est saxophoniste. Mm. Et on le voit beaucoup dans les premiers films de Jim Jarmusch. Il joue dans les films de Jim Jarmusch. On le voit régulièrement. Mm. Et en fait, donc John Lurie a fait ce disque de Marvin Pontiac. Et il me semble que c'était son dernier disque. En fait, John Lurie a contracté la maladie de Lyme. Et donc suite à ça, ce que moi j'aurais entendu, mais j'ai eu du mal à trouver des confirmations, mais voilà, ce qui est sûr, c'est qu'il a arrêté la musique après ça. Et moi, ce que j'ai entendu, c'est que la maladie de Lyme travaille sur le système nerveux.
Oui,
bah en fait, que lui, dès qu'il entendait de la musique ou des sons, c'était une cacophonie extrême et que c'était insupportable. Mmh. Donc, il a arrêté la musique, il est parti vivre dans la forêt, dans le calme. Et depuis, il peint. C'est vachement bien ce qu'il peint. Mmh, vous pouvez aller voir. Mais, donc, fin novembre, il est sorti ce disque, sorti de nulle part. C'est un ami qui me l'a envoyé. Et donc, c'est un disque sous le nom de Marvin Pontiac qui a été annoncé comme étant en fait Marvin Pontiac aurait reçu lorsqu'il était en asile un 4 pistes à cassette et voilà ce qu'il aurait enregistré. C'est autour de ça qu'a été faite là. On peut pas dire vraiment la promo du disque parce qu'il y a eu vraiment quasiment aucune promo, c'est ultra discret. Mais effectivement, donc John Lurie apparemment referait de la musique.
D'accord.
Et donc voilà, je vais passer un petit extrait. C'est je crois qu'il y a 21 morceaux très très courts, comme des espèces de mantras de blues.
D'accord.
Voilà. Et voilà, je vais passer à un morceau qui s'appelle Baby Pigs.
I was walking down a road. And I saw 7 baby pigs who had escaped and were running down the dusty road, running. They didn't know where they were going or what they were doing, but they had escaped and they were running, scampering. Cute and full of life, scampering. Baby pigs. You can't imagine how 7 baby pigs, how cute they can be as they run down the road. Never seen 7 baby pigs escaping. Your life has fallen short.
Bah, c'est la fin de l'émission, Sol.
Bah oui, Nathalie.
Oh, c'est passé hyper vite, j'espère que vous avez apprécié, chers auditeurs. Alors, sachez que nous sommes donc sur Facebook, ici même. Donc,
nous sommes des gens modernes.
Oui, très très modernes. sur Facebook, toutes les émissions sont consultables et puis bientôt téléchargeables sur SoundCloud.
Absolument.
Et puis, sachez que cette émission est rediffusée dans le cadre des Nuits Créatives aussi le samedi de cette semaine, de 11h à minuit.
Tout à fait.
Voilà, donc ce qu'on peut dire, c'est qu'on vous retrouve lundi 15 janvier, c'est ça, 2018.
Ouais.
déjà.
Ouais. On n'a pas tout à fait décidé du thème. Mais
non, voilà, on ne sait pas encore. Serez... Mais... Ouais. Ouais. Et puis, donc, de 20h à 21h toujours, donc lundi 15 janvier 2018, donc ici même, sur la clé des ondes 90.1. Et peut-être, moi, je vais vous souhaiter déjà des bonnes fêtes à toutes et à tous.
Mais moi aussi, de même, je souhaite de bonnes fêtes à tout le monde.
Et puis, je pense que tu as un truc à nous montrer quand même.
Bah oui, oui. On va quand même écouter. Ah bah oui. Il reste quand même une dizaine de minutes. Oui. Et donc, pour terminer, on va écouter un long morceau. Donc, on va terminer avec un morceau d'un groupe grenoblois qui s'appelait Rien, qui n'existe plus. Donc, ce groupe a été formé en 99 et il a la particularité d'avoir programmé sa séparation pour 2014. Donc, le groupe s'est bien séparé en 2014. Et donc, vous allez entendre un morceau qui s'appelle Cérépoulène. C'est le dernier morceau de leur second album qui s'appelait Il ne peut y avoir de prédiction sans avenir. Voilà. Et donc, moi, sur ce, je vous souhaite une. Je te souhaite une bonne soirée, Nathalie, ainsi qu'à tous nos auditeurs.
Et puis après, donc après l'émission, voilà, restez en ligne, quoi, restez, voilà, stay tuned, comme on dit.
Stay tuned.
Je t'enverrai l'aube par ricochet. Nous mangerons des clématites. Des silences noiront la journée. Tu seras paré d'accalmie. La lumière voilera tes yeux. Et des rafales fendront nos rêves. Je t'enverrai l'aube par ricochet. Nous récolterons des fléaux. La paille brûlera sous nos pieds. Nous rapporterons des pépites. D'un coup le soir s'écartera. Des algues encercleront nos murs. Je rappelle à la peau mon amour qui repère. Chaque seconde est un commencement. Je sens mon corps se déchirer, éclater dans ses certitudes. J'invoque le sceau des Éloises, le génie de l'antre de l'ombre. Mes doigts velus se raccordissent, mon tronc cotonneux se resserre. Mes fibres pétaradent, mon cœur bat la chamade. Quand j'aperçois au loin ma beauté mécanique, dans une courbe lente, ma fleur oracle arrive en cercle concentré. Je repense à ces répoulènes et j'ajuste d'un geste les plis de ma voile. J'arrache mes esquilles et soigne mes contours. Et je rejoins l'azur qui nous ouvre sa toile aux paillettes céruléennes. J'étreins mon oréade et filtre la lumière et nous allons des clés de la voûte aurifère, pilonner la garde du rêve, j'aimais la forêt des étoiles.
Sans avenir, le deuxième album du groupe Rien. Il y avait Hugo et DOS.3 à la guitare, Goulag à la basse et AK à la batterie. Il y avait aussi David Marron au cri, Franck Serpinet aux percussions, Clara Fontanelle à la voix et Rachel Barthélémy au chant. Jules a écrit et interprété la poésie. Les cuivres étaient assurés par Mathieu Fatalini, Lionel Moreau-Flacha, Jérôme Girin, Pascal Billot et Vincent Stéphane. Arash Sarkechik était à la flûte. Le son était entièrement géré par Brain. Octobre s'est occupé du graphisme et de la pochette. Drexel en a rédigé les textes intérieurs. Avec la liberté de celui que la culture n'a pas entièrement englouti, disait Théodore Wiesengrund d'Adorno, le vagabond de la musique ramasse le morceau de verre qu'il trouve sur la route et le tend vers le soleil pour en faire jaillir mille couleurs. Ce disque était l'histoire de ce vagabond.
Tout de suite, sur la clé des ondes, les nuits fragmentées, 90.1.